Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc ensemble dans nos habituelles lectures en liberté pour un nouveau texte que nous allons démarrer aujourd'hui. Et je vous propose un court texte de Honoré de Balzac, assez rare, dont le titre est « Ferragus, chef des dévorants ». Donc Balzac. Madame Jules. Il est dans Paris certaines rues déshonorées autant que peut l'être un homme coupable d'infamie. Puis il existe des rues nobles, puis des rues simplement honnêtes, puis de jeunes rues sur la moralité desquelles le public ne s'est pas encore formé d'opinion, puis des rues assassines. Des rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles, des rues estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales, des rues ouvrières, travailleuses, mercantiles. Enfin, les rues de Paris ont des qualités humaines et nous impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Il y a des rues de mauvaise compagnie où vous ne voudriez pas demeurer, et des rues où vous placeriez volonté votre séjour. Quelques rues, ainsi que la rue Montmartre, ont une belle tête et finissent en queue de poisson. La rue de la Paix est une large rue, une grande rue. Mais elle ne réveille aucune des pensées gracieusement nobles qui surprennent une âme impressible au milieu de la rue royale. Et elle manque certainement de la majesté qui règne dans la place Vendôme. Si vous vous promenez dans les rues de l'île Saint-Louis, ne demandez raison de la tristesse nerveuse qui s'empare de vous qu'à la solitude, à l'air morne des maisons et des grands hôtels déserts. Cette île, le cadavre des fermiers généraux, est comme la Venise de Paris. La place de la Bourse est babillarde, active, prostituée. Elle n'est belle que par un clair de lune à 2 heures du matin. Le jour, c'est un abrégé de Paris. Pendant la nuit, c'est comme une rêverie de la Grèce. La rue traversière Saint-Honoré n'est-elle pas une rue infâme ? Il y a là de méchantes petites maisons à 2 croisées où, d'étage en étage, se trouvent des vices, des crimes, de la misère. Les rues étroites, exposées au nord où le soleil ne vient que 3 ou 4 fois dans l'année, sont des rues assassines qui tuent impunément. La justice d'aujourd'hui ne s'en mêle pas. Paris est le plus délicieux des monstres. Là, jolie femme, plus loin, vieux et pauvre, ici, tout neuf, comme la monnaie d'un nouveau règne. Dans ce coin, élégant comme une femme à la mode. Monstre complet, d'ailleurs. Ses greniers, espèce de tête pleine de science et de génie, ses premiers étages, estomac heureux, ses boutiques, véritables pieds, de l'appart tous les trotteurs, tous les affairés. Et quelle vie toujours active a le monstre! À peine le dernier frétillement des dernières voitures de bal cesse-t-il au cœur que déjà ses bras se remuent aux barrières et il se secoue lentement. Toutes les portes bâillent, tournent sur leurs gonds comme les membranes d'un grand homard, invisiblement manœuvrées par 30 000 hommes ou femmes, dont chacune ou chacun vit dans 6 pieds carrés, y possède une cuisine, un atelier, un lit, des enfants, un jardin, n'y voit pas clair et doit tout voir. Insensiblement, les articulations craquent. Le mouvement se communique. La rue parle. À midi, tout est vivant. Les cheminées fument. Le monstre mange. Puis il rugit. Puis ses mille pattes s'agitent. Beau spectacle. Mais, ô Paris, qui n'a pas admiré tes sombres paysages, tes échappées de lumière, tes culs de sac profonds et silencieux, qui n'a pas entendu tes murmures entre minuit et 2 heures du matin, ne connaît encore rien de ta vraie poésie ni de tes bizarres et larges contrastes. Il est un petit nombre d'amateurs, des gens qui ne marchent jamais en écervelé, qui dégustent leur Paris, qui en possèdent si bien la physionomie qu'ils y voient une verrue, un bouton, une rougeur. Pour les autres, Paris est toujours cette monstrueuse merveille, étonnant assemblage de mouvements, de machines et de pensées, la ville aux 100 000 romans, la tête du monde. Mais pour cela, Paris est triste ou gai, laid ou beau, vivant ou mort. Pour eux, Paris est une créature. Chaque homme, chaque fraction de maison est un lobe du tissu cellulaire de cette grande courtisane de laquelle ils connaissent parfaitement la tête, le cœur et les mœurs fantasques. Aussi ceux-là sont-ils les amants de Paris. Ils lèvent leur nez à tel coin de rue, sûrs d'y trouver le cadran d'une horloge. Ils disent à un ami dont la tabatière est vide « Prends par tel passage, il y a un débit de tabac à gauche près d'un pâtissier qui a une jolie femme. » Voyager dans Paris est pour ces poètes un luxe coûteux. Comment ne pas dépenser quelques minutes devant les drames, les désastres, les figures, les pittoresques accidents qui vous assaillent au milieu de cette mouvante reine des cités, vêtue d'affiches et qui néanmoins n'a pas un coin de propre, tant elle est complaisante aux vices de la nation française. À qui n'est-il pas arrivé de partir le matin de son logis pour aller aux extrémités de Paris sans avoir pu en quitter le centre à l'heure du dîner. Oui, donc, il est des rues ou des fins de rue, il est certaines maisons inconnues pour la plupart aux personnes du grand monde dans lesquelles une femme appartenant à ce monde ne saurait aller sans faire penser d'elle les choses les plus cruellement blessantes. Si cette femme est riche, si elle a voiture, si elle se trouve à pied ou déguisée, en quelques-uns de ces défilés du pays parisien, elle y compromet sa réputation d'honnête femme. Mais si par hasard elle y est venue à 9 heures du soir, les conjectures qu'un observateur peut se permettre deviennent épouvantables par leurs conséquences. Enfin, si cette femme est jeune et jolie, si elle entre dans quelque maison d'une de ces rues, si la maison a une allée longue et sombre, humide et puante, si au fond de l'allée tremblote la lueur pâle d'une lampe et que sous cette lueur se dessine un horrible visage de vieille femme aux doigts décharnés, en vérité, disons-le, par intérêt pour les jeunes et jolies femmes, cette femme est perdue. Elle est à la merci du premier homme de sa connaissance qui la rencontre dans ces marécages parisiens. Mais il y a telle rue de Paris où cette rencontre peut devenir le drame le plus effroyablement terrible, un drame plein de sang et d'amour, un drame de l'école moderne. Malheureusement, cette conviction, ce dramatique, sera comme le drame moderne compris par peu de personnes. Et c'est grande pitié que de raconter une histoire à un public qui n'en épouse pas tout le mérite local, mais qui peut se flatter d'être jamais compris. Nous mourrons tous inconnus. C'est le mot des femmes et celui des auteurs. À 8h30 du soir, rue Pagevin, dans un temps où la rue Pagevin n'avait pas un mur qui ne répétât un mot infâme, et dans la direction de la rue Soly, la plus étroite et la moins praticable de toutes les rues de Paris, il y a de cette aventure environ 13 ans, un jeune homme, par l'un de ces hasards qui n'arrivent pas deux fois dans la vie, tournait à pied le coin de la rue Pagevin pour entrer dans la rue des Vieux Augustins du côté droit, où se trouve précisément la rue Soly. Là, ce jeune homme, qui demeurait, lui, rue de Bourbon, trouva dans la femme à quelques pas de laquelle il marchait fort insouciamment de vagues ressemblances avec la plus jolie femme de Paris, une chaste et délicieuse personne de laquelle il était en secret passionnément amoureux. Et amoureux sans espoir. Elle était mariée. En un moment, son cœur bondit, une chaleur intolérable sourdit de son diaphragme et passa dans toutes ses veines. Il eut froid dans le dos et sentit dans sa tête un frémissement superficiel. Il aimait, il était jeune, il connaissait Paris. Et sa perspicacité ne lui permettait pas d'ignorer tout ce qu'il y avait d'infamie possible pour une femme élégante, riche, jeune et jolie à se promener là, d'un pied criminellement furtif. Elle, dans cette grotte, à cette heure. L'amour que ce jeune homme avait pour cette femme pourra sembler bien romanesque, et d'autant plus même qu'il était officier dans la garde royale.
Septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout semble à s'y méprendre. À Paris, au mois d'août, de larmes et de rires était fait notre amour, qui redoutant le pire vivait au jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris au mois d'août. Pour te dire je t'aime aussi loin que tu sois, une part de moi-même reste accrochée à toi, et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres, de Paris dans tes yeux. Notre amour un peu fou, pour que tout recommence à Paris au mois d'août.
Lecteurs en liberté, Denis Flagel.
Ferragus, le chef des dévorants, Honoré de Balzac. Si le jeune homme eût été dans l'infanterie, la chose serait encore vraisemblable. Mais il était officier supérieur de cavalerie et il appartenait à l'armée française qui veut le plus de rapidité dans ses conquêtes, qui tire vanité de ses mœurs amoureuses autant que de son costume. Cependant, la passion de cet officier était vraie. Et à beaucoup de jeunes cœurs, elle paraîtra grande. Il aimait cette femme parce qu'elle était vertueuse. Il en aimait la vertu, la grâce décente, l'imposante sainteté, comme les plus chers trésors de sa passion inconnue. Cette femme était vraiment digne d'inspirer un de ces amours platoniques qui se rencontrent comme des fleurs au milieu des ruines sanglantes dans l'histoire du Moyen-Âge. Digne d'être secrètement le principe de toutes les actions d'un homme jeune. Amour aussi haut, aussi pur que le ciel quand il est bleu. Amour sans espoir et auquel on s'attache parce qu'il ne trompe jamais. Amour prodigue de jouissances effrénées, surtout à un âge où le cœur est brûlant, l'imagination mordante et où les yeux d'un homme voient bien clair. Il se rencontre dans Paris des effets de nuit singuliers, bizarres, inconcevables. Ceux-là seulement qui se sont amusés à les observer savent combien la femme y devient fantastique à la brune. Tantôt la créature que vous y suivez par hasard ou à dessein vous paraît svelte. Tantôt le bas, s'il est bien blanc, vous fait croire à des jambes fines et élégantes, puis la taille, quoique enveloppée d'un châle, d'une pelisse, se révèle jeune et voluptueuse dans l'ombre. Enfin, les clartés incertaines d'une boutique ou d'un réverbère donnent à l'inconnu un éclat fugitif, presque toujours trompeur, qui réveille, allume l'imagination et la lance au-delà du vrai. Les sens s'émeuvent alors, tout se colore et s'anime. La femme prend un aspect tout nouveau, son corps s'embellit. Par moments, ce n'est plus une femme, c'est un démon, un feu follet qui vous entraîne par un ardent magnétisme jusqu'à une maison décente où la pauvre bourgeoise, ayant peur de votre pas menaçant ou de vos bottes retentissantes, vous ferme la porte cochère au nez sans vous regarder. La lueur vacillante que projetait le vitrage d'une boutique de cordonnier illumina soudain, précisément à la chute des reins, la taille de la femme qui se trouvait devant le jeune homme. Ah certes, elle seule était ainsi cambrée. Elle seule avait le secret de cette chaste démarche qui met innocemment en relief les beautés des formes les plus attrayantes. C'était et son châle du matin et le chapeau de velours du matin. À son bas de soie grise, pas une mouche, à son soulier, pas une éclaboussure. Le châle était bien collé sur le buste. Il en dessinait vaguement les délicieux contours et le jeune homme en avait vu les blanches épaules au bal. Il savait tout ce que ce châle couvrait de trésors. À la manière dont s'entortille une Parisienne dans son châle, à la manière dont elle lève le pied dans la rue, un homme d'esprit devine le secret de sa course mystérieuse. Il y a je ne sais quoi de frémissant, de léger, dans la personne et dans la démarche. La femme semble peser moins, elle va, ou mieux, elle file comme une étoile et vole emportée par une pensée que trahissent les plis et les jeux de sa robe. Le jeune homme hâta le pas, devança la femme, se retourna pour la voir. Pfft ! Elle avait disparu, dans une allée dont la porte à claire-voix et à grelot claquait et sonnait. Le jeune homme revint, et vit cette femme montant au fond de l'allée, non sans recevoir l'obséquieux salut d'une vieille portière, un tortueux escalier dont les premières marches étaient fortement éclairées. Et madame montait lestement, vivement, comme doit monter une femme impatiente. Impatiente de quoi ? Se dit le jeune homme qui se recula pour se coller en espalier sur le mur de l'autre côté de la rue. Et il regarda, le malheureux, tous les étages de la maison avec l'attention d'un agent de police cherchant son conspirateur. C'était une de ces maisons comme il y en a des milliers à Paris, maisons ignobles, vulgaires, étroites, jaunâtre de ton, à 4 étages et à 3 fenêtres. La boutique et l'entresol appartenaient au cordonnier. Les persiennes du premier étage étaient fermées. Où allait madame ? Le jeune homme crut entendre le tintement d'une sonnette dans l'appartement du second. Effectivement, une lumière s'agita dans une pièce à 2 croisées fortement éclairées et illumina soudain la 3e, dont l'obscurité annonçait une première chambre, sans doute le salon ou la salle à manger de l'appartement. Aussitôt, la silhouette d'un chapeau de femme se dessina vaguement, la porte se ferma, la première pièce redevint obscure, puis les 2 dernières croisées reprirent leur teinte rouge. Là, le jeune homme entendit « Gare !» et reçut un coup à l'épaule. « Vous faites donc attention à rien ?» dit une grosse voix. C'était la voix d'un ouvrier portant une longue planche sur son épaule, et l'ouvrier passa. Cet ouvrier était l'homme de la Providence, disant à ce curieux « De quoi te mêles-tu ? Songe à ton service et laisse les Parisiens à leurs petites affaires. » Le jeune homme se croisa les bras. Puis, n'étant vu de personne, il laissa rouler sur ses joues des larmes de rage, sans les essuyer. Enfin, la vue des ombres qui se jouaient sur ses 2 fenêtres éclairées lui faisait mal. Il regarda au hasard dans la partie supérieure de la rue des Vieux Augustins et il vit un fiacre arrêté le long d'un mur, à un endroit où il n'y avait ni porte de maison, ni lueur de boutique. Est-ce elle ? N'est-ce pas elle ? La vie ou la mort pour un amant. Et cet amant attendait. Il resta là pendant 1 siècle de 20 minutes. Après, la femme descendit, et il reconnut alors celle qu'il aimait secrètement. Néanmoins, il voulut douter encore. L'inconnu alla vers le fiacre et y monta. « La maison sera toujours là, je pourrai toujours la fouiller, » se dit le jeune homme, qui suivit la voiture en courant afin de dissiper ses derniers doutes, et bientôt il n'en conserva plus. Le fiacre s'arrêta rue de Richelieu devant la boutique d'un magasin de fleurs près de la rue des Ménards. La dame descendit, entra dans la boutique, envoya l'argent dû au cocher et sortit après avoir choisi des marabouts. Des marabouts pour ses cheveux noirs. Brune, elle avait approché le plumage de sa tête pour en voir l'effet. Puis la dame tourna lestement vers la rue de Ménard et rentra chez elle. Quand la porte de l'hôtel où elle demeurait fut fermée, le jeune amant, ayant perdu toutes ses espérances et, double malheur, ses plus chères croyances, alla dans Paris comme un homme ivre et se trouva bientôt chez lui sans savoir comment il était venu. Il se jeta dans un fauteuil, resta les pieds sur ses chenets, la tête entre les mains, séchant ses bottes mouillées, les brûlant même. Ce fut un moment affreux. un de ces moments où dans la vie humaine le caractère se modifie et où la conduite du meilleur homme dépend du bonheur ou du malheur de sa première action. Providence ou fatalité. Choisissez. Ce jeune homme appartenait à une bonne famille dont la noblesse n'était d'ailleurs pas très ancienne. Mais il y a si peu d'anciennes familles aujourd'hui que tous les jeunes gens sont anciens sans conteste. Son aïeul avait acheté une charge de conseiller au Parlement de Paris, où il était devenu président. Ses fils, pourvus chacun d'une belle fortune, entrèrent au service et, par leur alliance, arrivèrent à la cour. La Révolution avait balayé cette famille. Mais il était resté une vieille douairière entêtée qui n'avait pas voulu émigrer, qui, mise en prison, menacée de mourir et sauvée aux 9 thermidors, retrouva ses biens. Elle fit revenir en temps utile, vers 1804, son petit-fils, Auguste de Malincourt, l'unique rejeton des Charbonnons de Malincourt, qui fut élevé par la bonne douairière avec un triple soin de mère, de femme noble et de douairière entêtée. Puis, quand vint la Restauration, le jeune homme, alors âgé de 18 ans, entra dans la Maison Rouge, suivit les princes à Gand, fut fait officier dans les gardes du corps, se sortit pour servir dans la ligne, fut appelé dans la garde royale, où il se trouvait alors à 23 ans, chef d'escadron d'un régiment de cavalerie, position superbe, et due à sa grand-mère, qui, malgré son âge, savait très bien son monde. Cette double biographie est le résumé de l'histoire générale et particulière, sauf les variantes de toutes les familles qui ont émigré, qui avaient des dettes et des biens, des douairières et de l'entregent. Madame la baronne de Maulincourt avait pour ami le vieux vidame de Pamiers, ancien commandeur de l'ordre de Malte. C'était une de ces amitiés éternelles fondées sur des liens sexagénaires et que rien ne peut plus tuer, parce qu'au fond de ces liaisons, il y a toujours des secrets de cœur humain, admirables à deviner quand on en a le temps, mais insipides à expliquer en 20 lignes, et qui feraient le texte d'un ouvrage en 4 volumes. Ce jeune homme, pâle, long et fluet, délicat en apparence, homme d'honneur et de vrai courage d'ailleurs, qui se battait en duel sans hésiter pour un oui, pour un non, ne s'était encore trouvé sur aucun champ de bataille et portait à sa boutonnière la croix de la Légion d'honneur. C'était, vous le voyez, une des fautes vivantes de la Restauration, peut-être la plus pardonnable. La jeunesse de ce temps n'a été la jeunesse d'aucune époque. Elle s'est rencontrée entre les souvenirs de l'Empire et les souvenirs de l'émigration, entre les vieilles traditions de la cour et les études consciencieuses de la bourgeoisie, entre la religion et les bals costumés, entre deux fois politiques, entre Louis XVIII qui ne voyait que le présent et Charles X qui voyait trop en avant. Voilà pour ce soir donc le début de ce court roman de Honoré de Balzac, Ferragus, le chef des dévorants. Nous retrouverons la suite demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.